France Musique.
France Musique, les grands entretiens, Philippe Cassard.
Je m'appelle Nathalie Dessay, je suis née le 19 avril 1965 à Lyon et je suis chanteuse et comédienne.
À ce moment-là, tu as écouté un peu d'opéra, des chanteuses, des
chanteurs
d'opéra.
Oui, j'ai écouté Maria Callas et Montserrat Caballé.
Ah.
Essentiellement. Parce que c'était dans une anthologie qu'on avait à l'époque.
Et là...
Et Kirite Kanawa, je me souviens, qui était très à la mode aussi à l'époque. Oui. Kirite Kanawa, Barbara Hendricks. Et...
Ça t'a formé l'oreille, ça t'a...
En tout cas, je me souviens que j'ai eu un choc quand j'ai écouté Maria Callas. Un choc émotionnel. C'est-à-dire, quand j'ai entendu Montserrat Caballé pour la première fois, c'était un choc esthétique, pur. Mais quand j'ai entendu Callas, c'était vraiment autre chose. Je sentais que cette femme vivait ce qu'elle était en train de chanter. Pour moi, c'était...
L'incarnation des personnages.
Ouais. Ouais. Et puis cette voix si étrange aussi, qui ressemblait vraiment à aucune autre.
Pas forcément ce qu'on appelle une belle voix en soi, ou...
Ouais, en tout cas, une voix avec un timbre très spécial, très particulier.
Et des couleurs.
Pas du tout avenant au premier abord. Et pourtant.
T'étais captivée.
Oui. Et donc, au cours de la deuxième année de théâtre, les gens qui m'entendent chanter l'air de Pamina... me disent, écoute, il faut que tu entres en classe de chant. Et ça s'est fait comme ça.
Est-ce que la voix...
C'est-à-dire que la
tu
voix...
te souviens du timbre de voix que tu avais à
l'époque? Oui, j'avais une voix...
C'était déjà léger.
Très facile, très aiguë, déjà. Mais qui était toute petite. Et puis, on me disait souvent, mais arrête de chanter variété. je sais pas très bien ce que c'est, mais probablement qu'il n'y avait pas beaucoup de vibrato... Et que peut-être je prenais les sons par en dessous, un
comme
peu.
Comme ça se fait
comme
maintenant.
Comme ça se fait, bah, de tout temps à jamais, temps, dans la variété. Peut-être c'est ça qu'on me reprochait, je ne sais pas.
Mon dernier concert sera-t-il donné à tombeau ouvert au guichet fermé?
Alors, comment les choses se sont, disons, cristallisées pour que ça devienne, entre guillemets, sérieux et, pour ne pas dire, professionnel?
Parce que j'ai passé des concours, notamment le concours du TNS en théâtre, et je n'ai pas été reçue. Et donc, je me suis dit que, déjà à l'époque, j'avais l'idée de jouer des personnages. Et je me suis dit que le chemin le plus court pour moi, pour aller sur scène, ça serait probablement de chanter, plutôt que de ne faire entre guillemets, que jouer.
Mais c'est passé par des expériences dans des chœurs, parce que tu as été dans
chœurs
de, du théâtre de Bordeaux, ensuite le Capitole de
Capitole
Toulouse.
D'abord.
Le Capitole
d'abord.
Avant
oui,
Bordeaux.
Oui, parce que ma prof me dit, tiens, il y a une audition pour les chœurs du Capitole, tu devrais la passer parce que ça te ferait de l'expérience pour passer des auditions. Ce n'était pas du tout pour que je l'aie, mais en fait, je l'ai eu. Donc, à l'aube de mes 21 ans, j'avais un boulot. Et comme j'avais déjà dit à mes parents que d'abord, je voulais être danseuse. Après, je voulais être prof d'allemand. Après, je voulais être comédienne. Après, je voulais être chanteuse. Mes parents commençaient à être un peu désespérés et à penser que j'allais finir sous les ponts. Donc, pour les rassurer, je me suis dit, bon, puisqu'on me propose un travail dans les chœurs du Capitole, je vais prendre ce travail. Comme ça, ça les rassurera un peu. Ça leur montrera que je peux gagner ma vie avec ça. Le truc, c'est que rapidement, j'ai su que je voulais pas rester là, que je voulais faire autre chose de ma vie et que je voulais chanter en soliste.
Tu te souviens de certaines productions dans lesquelles
oui,
tu as chanté?
Oui, il y avait une, une Thaïs, il y a eu un Nabucco magnifique, il y a eu la, même si c'était pas la rencontre personnelle, mais c'était la rencontre quand même avec Michel Plasson, déjà à la tête de l'orchestre, ça c'était magnifique. Je me souviens avoir fait une toute petite voix soliste au tout début de la saison à Paris, sous la direction de Michel, dans Padmavati de Roussel. Donc j'avais passé tout l'été à apprendre ma ligne. Il y a eu le concours des Voix Nouvelles, le premier concours des Voix Nouvelles.
Ça, c'était avant l'Académie Lyrique,
ah ben oui,
de l'Opéra de Paris.
Parce que c'était en 89, en 88 même. Et donc, on a auditionné tout un tas de jeunes gens dans toutes les villes de France. Et moi, j'étais à Bordeaux, et j'ai auditionné, et je suis allée en finale. Et c'est là que j'ai rencontré mon agent et qu'on m'a proposé d'entrer à l'école de l'opéra.
On peut la nommer, Thérèse Seidel.
Oui, Thérèse Seidel, qui est toujours mon agent, encore aujourd'hui. Elle m'a mis l'index sous le nez en disant « Vous avez un agent ?» Et je lui ai dit non. Et elle m'a dit « Bah maintenant, vous en avez un.
» Et ta voix à l'époque ?
Ah ben, c'était une très jolie voix, je pense. Toute petite. Petite voix, parce que je n'avais pas encore rencontré Jean-Pierre Blivet. Très aiguë. Avec des aigus, des suraigus, très faciles.
Mais est-ce que ça t'étonnait toi-même d'arriver dans les aigus comme
moi,
ça?
Moi, je ne savais pas que c'était pas commun, en fait. Je ne m'en suis aperçu que quand j'ai commencé à faire des concours et des choses comme ça.
Donc, tu n'avais pas du tout le trac et...
Ah, si.
Mais la technique avait été acquise comment pour...
Mais le peu de technique que j'avais avait été acquise auprès de Madame Saint-Tray. Et puis, un type. Peu, mais pas beaucoup, au conservatoire, à Bordeaux, mais aussi auprès de pianistes et de musiciens. Je me souviens d'un pianiste qui s'appelait Pascal Robert, qui est mort du sida à l'aube de la trentaine, et qui m'a beaucoup appris aussi, musicalement. Et puis, on avait eu un prof de musicologie qui s'appelle Roland Mancini, et qui nous faisait écouter beaucoup de choses, beaucoup de chanteurs du passé aussi, et qui nous faisait comparer les voix, les interprétations.
Ça t'intéressait ?
Ah oui, je trouvais ça génial. Je suis toujours fascinée par les gens qui chantent bien, en fait. Que ce soit à l'opéra, ou dans la chanson, ou dans le jazz, ou... voilà, je trouve ça merveilleux.
Parce que dans le jazz, t'as des admirations...
Ah bah oui, moi j'écoute Frank Sinatra, je suis jamais déçue. Hein.
Ou Ella Fitzgerald.
Ou Ella Fitzgerald, ou Billie Holiday, ou Shirley Horn.
Ou même dans les plus jeunes, parce que je sais que t'es
ou,
très
Veronica Swift, ou Cécile McLaurin-Salvant, ou Yoon Sun-na, ou Tierney Sutton. C'est une chanteuse de jazz de la côte ouest que je connais très bien et que j'admire énormément. And the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh.
Alors, tu mentionnes Jean-Pierre Blivet, ça c'est vraiment une rencontre très importante pour toi.
Ah oui, parce que lui, il m'a vraiment appris à développer la voix à la fois en qualité et en quantité, j'allais dire.
Il était chanteur au départ ?
Oui, au départ il était chanteur, il avait une très jolie voix de ténor, mais il était tout le temps malade. Donc, impossible de faire une carrière quand on... quand on est tout le temps enrhumé.
Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a montré ?
Il nous a fait faire, parce qu'il a été aussi très important pour Laurent, il nous a fait faire beaucoup, beaucoup d'exercices qu'il avait appris d'un maître italien et qui sont des exercices vraiment basés sur la respiration et pour trouver à la fois la rondeur et l'ampleur de la voix.
Avec Jean-Pierre Blivet, on ne faisait pas que de la technique, j'imagine.
On faisait beaucoup de technique beaucoup parce qu'il disait lui-même que pour la musique, on avait des pianistes, on avait d'autres gens qui pouvaient nous guider. Lui, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Ce qui l'intéressait, c'était vraiment la production du son. Mais c'est surtout le fait de bien respirer sur les côtés et dans le dos qui fait qu'en synergie, la gorge s'ouvre comme pour un début de bâillement. Et que c'est sur cette position-là qu'on va pouvoir commencer à parler de chant opératique et de voix projetée.
Laurent suivait aussi les cours de Jean-Pierre Blivet à cette époque-là ?
Alors à cette époque-là, assez rapidement, je crois. Je l'ai emmené chez Jean-Pierre, oui, oui, oui. Parce que lui, pendant 2 ans, il a fait la Guildhall School à Londres, où il avait un prof qui lui a appris certaines choses, mais il ne comprenait pas comment faire tourner la voix sur l'aigu. Il n'avait pas d'aigu, Laurent, quand je l'ai rencontré. Alors qu'aujourd'hui, il a des aigus magnifiques et très faciles. Parce qu'il sait les faire techniquement. Et comme ça a été difficile d'apprendre ça pour lui, c'est pour ça peut-être aussi qu'il l'enseigne très bien. Et c'est vraiment étonnant de voir comment il fait progresser des jeunes chanteurs qui viennent le voir. Des jeunes chanteurs qui, dans un premier temps, voudraient peut-être travailler avec moi parce que j'ai le nom que j'ai. Et rapidement, je leur dis, mais non, mais c'est pas avec moi qu'il faut travailler, c'est avec Laurent, c'est lui qui sait. Et c'est vrai.
L'enfant cherche sa voix, c'est le roi des grillons qui l'a. Dans une goutte d'eau, l'enfant cherchait sa voix, je ne la veux pas.
France Musique, les grands entretiens de Nathalie Dessay.
Comment est venu le premier engagement, le véritable engagement professionnel dans une maison d'opéra, pour chanter un rôle d'opéra ?
Alors, moi, je ne me souviens pas exactement, mais je me souviens que j'ai fait quelques auditions présentées par mon agent Thérèse Seidel. Et au fur et à mesure, les premiers engagements sont venus. Le premier, c'était à Liège, je me souviens, pour un truc de Adolphe Adam qui s'appelait « Si j'étais roi », je crois. Oui. Bon. Et puis, il y a eu aussi Compiègne, avec un truc de Méhul. Bon, ça, c'était aussi
ah oui, tu
très
m'en
moche.
As parlé, ça,
Joseph en Égypte.
Mais donc, bon. Des rôles de coloratour, du
oui,
coup.
Des rôles oui. De soprano léger. Oui. Et puis, il y a eu aussi rapidement La Poupée, en 92, à la Bastille.
Ah, mais c'est ça qui déclenche, disons,
oui.
On va dire...
C'est ça, et aussi l'engagement à Vienne, en 93, où j'ai refait La Poupée. Et là, c'était vraiment le début de la carrière internationale, je dirais. Toujours voulu que le chant ne soit pas une fin, en fait, mais seulement un moyen pour incarner un personnage. Et donc, j'ai eu soif d'apprendre le plus possible à chanter pour en fait être débarrassé de ça. Mais sauf qu'on n'est jamais débarrassé, c'est ça le problème. Moi, je croyais qu'au bout de 10 ans de travail acharné, puisqu'on dit toujours qu'il faut 10 ans pour faire un chanteur, je serais enfin tranquille. Avec la technique, et que je pourrais me consacrer au théâtre, à l'opéra, si tant est que l'opéra soit du théâtre, ce qui est une vraie question.
Mais tu es une bosseuse, tu travaillais beaucoup avec les metteurs en scène, enfin qui voulaient bien te faire travailler d'ailleurs.
Oui, oui.
Tu demandais beaucoup.
J'étais avide qu'ils me dirigent, qu'ils me donnent des choses à faire. J'avais envie de proposer aussi des choses. Mais bien sûr, on n'est quand même pas aussi libre à l'opéra qu'au théâtre. Donc, on est quand même conditionné par le timing de la musique, déjà. Et puis, il y a des metteurs en scène qui aiment plus ou moins diriger les chanteurs, ou qui osent plus ou moins les diriger.
Et est-ce qu'il y a des chefs d'orchestre qui n'aiment pas les chanteurs ?
Oh, je ne sais pas s'ils les aiment pas. Ils ne les comprennent pas, souvent. Ils ne comprennent pas ce dont on a besoin.
Qui est ?
Alors déjà, beaucoup de clarté, parce que nous, on les a en vision périphérique la plupart du temps. On ne va pas passer tout l'opéra à être fixé sur eux. Et on a besoin de comprendre où est le premier temps. Donc on veut une gestique claire, déjà.
Et on beaucoup, les voit de loin, en plus. Parce
et, oui, et beaucoup de chefs ne se rendent pas compte que leur gestique n'est pas claire. Et je me souviens, la gestique la plus claire que j'ai jamais eue, je crois que c'est Boulez.
C'était quand ?
C'était le Rossignol, je sais plus.
De Stravinsky ?
Oui, oui. Et je me suis dit, oh, mais c'est tellement clair que j'ai l'impression d'être téléguidée. J'ai plus rien à faire, quoi.
Tu mets du temps à apprendre
les
heures ?
Oui, beaucoup. Avant, j'avais un peu plus de mémoire que maintenant, mais quand même. Moi, je lis pas très bien la musique, en fait. J'ai pas fait mes classes de solfège, parce qu'en fait, à Bordeaux, j'ai eu mon prix en un an. Donc, j'avais fait un peu de piano vaguement, comme ça, quand j'étais jeune, mais j'ai passé ma vie, en fait, à craindre d'être prise en flagrant délit de non-lecture à vue.
Est-ce que ça s'est produit ?
Non, parce que heureusement à l'opéra, on vous donne votre rôle à faire 3 ans avant, donc on a ou 2 ans avant, et donc on a le temps de le préparer.
Et comment tu atterris, si j'ose dire, à l'opéra de Vienne dans la troupe ? Comment ça s'est fait ?
Eh bien, j'ai passé une audition en 92, je pense.
Devant le directeur de l'époque ?
Devant le directeur, qui était Johan Hollander, et c'est là qu'il me propose de rentrer dans la troupe de l'opéra de Vienne.
Qu'est-ce que tu en as pensé de cette invitation ? Comment tu t'es projetée ?
Ben, au départ, je n'étais pas partie pour ça, encore une fois. J'étais partie pour qu'ils me donnent un rôle, soit Olympia, soit Blanchaine, par exemple. Et eux, ils me disent, on vous engage pour la saison, c'est-à-dire pour un ensemble de rôles. Donc, je n'avais pas prévu ça, mais je me suis dit que ça valait la peine de voir. Et donc, je suis partie.
Donc Nathalie Dessay arrive avec sa petite valise à Vienne, et son premier rôle c'est ?
C'est Blanchaine, dans L'enlèvement au sérail.
Et comment ça se passe ?
Ça se passe très bien, et ils me disent rapidement, oui, il va falloir apprendre Sophie du Rosenkavalier aussi, pour dans 4 mois.
Chevalier à la rose de Richard
Chevalier
Strauss.
À la rose, alors ça c'était hyper dur, parce que je savais, j'avais déjà appris, je pense, le rôle de Zerbinette.
Dans Ariane Anaxos.
Ouais, qui est un rôle difficile mais assez court. Et Sophie, c'était vraiment long et compliqué.
Beaucoup d'allemand ?
Ouais. Mais de toute façon, pendant 10 ans, j'ai chanté quasiment qu'en français et en allemand. Pas d'italien.
Et quelles sont les difficultés de ce rôle de Sophie ?
Déjà, musicalement, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur à déchiffrer. C'est long. C'est compliqué. Bon, il y a plus compliqué que ça encore, qui va être la Schweigsamefrau quelques années plus tard.
La femme muette, la femme silencieuse.
La femme silencieuse, alors ça...
Parce que ça bavarde beaucoup, parce
Ah oui, ça c'est vraiment, vraiment dur, et puis pour pas grand-chose en plus.
Mais tu aimais la musique ? Comment ?
Oui, la musique de Rosenkavalier, j'adorais. J'adorais Zerbinette aussi, de Ariane Anaxos. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? La Reine de la Nuit, je l'ai fait plus tard, je pense. Et surtout, ce qui va être génial, c'est que Cheryl Studer est pressentie, enfin, a signé son contrat pour faire les 3 rôles dans les Contes d'Hoffmann, et elle tombe malade. Donc, on prend 3 autres pour faire chacune un rôle, et donc on me donne Olympia dans la mise en scène de Serban, pour la fin de l'année 93 avec Placido Domingo. Et c'est là qu'il va y avoir vraiment un avant et un après. Dans cette production-là, je m'en suis très bien entendue avec Serban. Et donc, on a fait vraiment un très beau spectacle. Et c'était une très belle production. D'ailleurs, dans cette production, c'est Barbara Frittoli qui fait ses débuts dans Antonia et qui commence aussi, elle aussi, sa carrière internationale.
Ah oui, vous étiez...
Donc, on était
sur la
deux
ligne
jeunes.
De départ, oui, oui, oui. Oui, qui... Et rétrospectivement, sur cette année passée à Vienne, quels souvenirs, au pluriel, est-ce que tu en gardes? Est-ce que c'est positif ou au contraire, tu te dis, mon Dieu...
C'est-à-dire que j'apprends beaucoup. Moi, je suis très curieuse. Je trouve cet orchestre magnifique. En même temps, je trouve qu'on ne répète pas assez scéniquement. Surtout pour les productions qu'on appelle de répertoire. C'est-à-dire qu'on a les 2-3 jours de répétition, c'est tout.
Ça veut dire que pour Sophie du Chevalier à la
Rose... J'ai eu 4 jours parce que j'ai hurlé, pleuré, trépigné. Je crois que j'ai eu 4 jours et demi de répétition, mais normalement, c'est 3. Donc,
avec pianiste.
Avec piano,
pas
et d'orchestre. Dans un faux décor, et, pas, et sans le costume.
Donc tu étais en quelque sorte lâchée dans la fosse au lion.
Oui, et je me souviens avoir eu tellement peur... En jouant ce rôle, je n'ai fait que 2 représentations de ce rôle-là et je n'ai plus jamais voulu le jouer après.
Et quelle était l'ambiance dans l'opéra ?
Très studieuse, hein. Ça rigolait pas beaucoup en fait. Hein. On travaillait énormément. Et
Mais tu assistais à des représentations d'opéra ?
Ah oui, 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 j'allais à l'opéra. Quand je jouais pas, j'y étais quasiment tous les soirs. Donc j'ai entendu de très grands chanteurs. Mais je me disais que c'était pas l'opéra que j'avais envie de faire, parce que moi j'avais envie de faire des nouvelles productions, j'avais envie d'explorer autant que faire se pouvait l'aspect théâtral de l'opéra. Ben non, il n'y en a pas. Donc j'étais assez déçue de ça. Moi je trouve que c'est vraiment hyper poussiéreux, quoi. Et que c'est.
Et routinier peut-être.
Routinier, poussiéreux, et que c'est. Ça va à l'encontre d'un geste artistique, en fait. Pour moi, hein, mais voilà.
Et quels chefs t'ont marqué ?
J'ai eu la chance de voir Kleiber diriger le Rosenkavalier. Alors, hélas, pas avec moi. Hein. Mais quelques mois avant que je ne le chante, je l'ai vu et entendu diriger.
Et c'était quoi l'impression ?
C'est inoubliable. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu depuis l'orchestre de Vienne jouer comme ça. C'est-à-dire être dans le respect de ce que voulait Hofmannsthal, plus que Strauss d'ailleurs, à savoir, lui dans son idée, c'était un opéra de chambre, et pas une espèce de gros machin à la crème.
Thank you. c'était sur l'ouverture du Chevalier à la Rose de Richard Strauss, dirigé par Carlos Kleiber, que se referme ce deuxième épisode des Grands Entretiens de Nathalie Dessay. Une série proposée par Philippe Cassard et réalisée par Françoise Cordet. Le podcast est disponible sur l'appli Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.